Bonsoir à chacun. Voilà, j'aimerais commencer par deux lectures dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, et nous lisons à partir du verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Deuxième texte dans l'évangile de Matthieu, et là nous allons au chapitre 4. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voilà, ce soir, je voudrais vous parler du fait que nous sommes invités. Nous sommes tous invités. Nous sommes tous invités à ce repas des noces. Qui que nous soyons, nous sommes invités. C'est la pensée majeure de ce que j'ai apporté ce soir. Qui que nous soyons, nous sommes invités. On voit dans cette parabole que Dieu a dû renouveler cette invitation parce que les premiers conviés n'en étaient pas dignes. J'aimerais vous citer quelques exemples qu'on trouve dans la parole qui nous montrent comment Dieu, à travers le temps jusqu'à Jésus, a fait cette invitation. Et on voit que malgré la situation dans laquelle on peut se trouver, Dieu nous invite. Regardez avec moi, ne cherchez peut-être pas, je vais vous citer quelques textes. Dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 9, nous avons une situation où Adam et Ève ont péché. Et parce qu'ils avaient peur de Dieu, ils se sont cachés. Et là, on a Dieu qui pose une question, qui lui dit « Où es-tu ?» Ça, c'est une invitation. Ça, c'est une invitation parce que Dieu a voulu chercher le contact avec celui et celle qui était loin de lui. Dieu a voulu effacer ce fossé qui était là parce que l'homme et la femme, dans son péché, a tourné le dos à Dieu. Et Dieu, par cette simple question, nous montre que l'invitation, elle est toujours là. Où es-tu ? Ce soir, peut-être que cette question, elle est pour toi. Peut-être que dans l'invitation de ce soir, cette question, elle est pour toi. Où es-tu ce soir ? Tu es là, dans ce lieu, ce soir, effectivement, avec nous. Mais dans ta vie, Dieu te pose peut-être cette question. Où est-ce que tu en es ? Où es-tu ? Où es-tu dans ta vie avec Dieu ? C'est une première question. Pourquoi Dieu la pose ? Parce qu'il cherchait à rétablir le contact avec l'homme, avec la femme. Parce qu'ils étaient partis loin de sa face. Ils ont essayé de se cacher. On ne peut pas se cacher loin de la face de Dieu, ce n'est pas possible. Mais il y a quand même un fossé qui s'était mis en place par le péché, et Dieu a cherché à remettre le contact. Regardez un tout petit peu plus loin, dans la Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. On a un même genre de situation. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Là encore, nous avons une invitation de quelqu'un qui avait un cœur qui n'était pas bien disposé. Et Dieu l'a invité à réfléchir sur son attitude, sur son comportement. Parce que pourquoi Dieu l'a invité à ce moment-là ? Pourquoi Dieu a repris Caïn ? Parce que Dieu voulait que Caïn lui s'évite la conséquence du péché qu'il allait faire après. Dieu savait ce qui allait lui arriver. Et pourtant, Dieu, dans sa bonté, alors que Caïn avait le cœur qui était détourné de lui, a voulu lui tendre la main. Dieu a voulu l'inviter justement à se reprendre pour qu'il ne subisse pas la conséquence du mal qu'il pourrait faire. Et Dieu l'avertit dans son amour. Alors que nous sommes loin de lui, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois, alors que nous sommes loin de lui, Dieu nous tend la main, Dieu nous invite. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, nous avons là une promesse. Et il est dit, « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. » C'est une parole que Dieu donne à Israël, parce que Dieu tendait la main à Israël. On voit aujourd'hui, depuis 1948-49, que les Juifs reviennent dans leur pays au fur et à mesure. C'est une promesse qui est à nouveau en train de se réaliser. C'est quelque chose qui était vrai pour Israël, mais on voit quelque part cette promesse qui nous dit que Dieu, même si on est au plus bas fond, si on revient à lui, alors ses bras sont grands ouverts. Le Seigneur, il veut nous accueillir. Le Seigneur, il nous invite. Dans Ésaïe, au chapitre 44, au verset 21 et 22, je lis « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Encore une invitation que Dieu donne au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, il se rebellait contre Dieu. Le peuple d'Israël ne voulait pas entendre parler de Dieu. Il allait vers les idoles, il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il voulait leur éviter tous ces malheurs qu'on trouve dans le Deutéronome, les invitait par les prophètes. Les invitait régulièrement à venir à lui, parce que Dieu voulait leur épargner tous ces malheurs. Dans Jérémie, on retrouve cette même pensée, chapitre 4, verset 1er, « Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. » Peut-être que ce soir, parmi nous, on est peut-être errant quelque part. Peut-être qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on doit aller. La réponse, elle est là, reviens à Dieu. Et le Seigneur, là encore, reconnaissez cette invitation qu'il nous donne pour qu'on puisse être un jour auprès de lui. Le triste constat que Jésus fait lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. » Le problème, c'est que nous, on s'enfonce dans nos problèmes, on s'enfonce dans nos raisonnements, on s'enfonce dans notre péché, mais Dieu est toujours là, et il nous appelle, il nous appelle, il nous appelle, il nous invite, il est patient. Et quand on regarde sa parole, quand on vient à des réunions comme celle-ci, à chaque fois l'appel est relancé. Parce que le Seigneur, ce qu'il cherche, C'est notre salut. Le Seigneur, il nous aime. Et même si on est dans ces situations où on est en porte-à-faux parce que nous sommes dans le péché, nous sommes dans des situations où Dieu est triste de nous voir ainsi, il nous appelle. Le Seigneur nous invite. Combien de fois Dieu a-t-il appelé son peuple ? On voit que le peuple d'Israël en a été jusqu'à faire mourir celui que Dieu a donné pour racheter les péchés. Il fallait que Jésus meure, il fallait qu'il aille à la croix. Mais quand même, celui qui était venu pour le peuple d'Israël, qui venait du peuple d'Israël, a été rejeté par ses contemporains. Alors j'en arrive à cette deuxième partie, parce que les textes, on peut croire qu'ils sont un peu disjoints, mais il y a quand même un lien. Le deuxième texte que j'ai lu nous parle de Jésus à Capernaum. Si on reprend le texte, c'était dans le chapitre 4, on voit qu'il va aller y demeurer. Il y a le mot qui est écrit. Il y va pour y demeurer. Ça veut dire que Jésus voulait y rester. Certes, Jésus, dans son ministère, a été amené à aller à plusieurs endroits, mais on pense quand même qu'il avait, entre guillemets, un QG à Capernaum. À Capernaum, Jésus a fait beaucoup de choses, plus que dans les autres environs. Alors Capernaum, je me suis posé la question, où est-ce que c'est Capernaum ? Capernaum, c'est en Galilée. La Galilée, c'est une région d'Israël qui est enténébrée à ce moment-là. C'est une région qui veut dire « terre des nations ». Cette région-là, c'est une région où les Juifs, on leur demandait, le contemporain juif demandait aux Juifs galiléens « mais t'es un vrai Juif ou t'es un faux Juif ?» Tellement cette ville était, il y avait de toutes les ethnies, parce qu'il y avait à la fois les Romains qui étaient là, il y avait les gens des frontières, il y avait les Israélites, et il y avait d'autres peuples qui étaient là. C'était une région où il y avait beaucoup de mixage. C'est aussi lié à ce qui s'est passé dans la fin de l'Ancien Testament, au moment de la déportation. Les Assyriens sont venus, etc. Et dans cette région-là, c'était vraiment, il y avait de la mixité. Les origines étaient mélangées. Le problème, c'est que chez les Juifs, ils n'avaient pas à se marier avec des personnes d'une autre nation. C'était un ordre qui était ce qui symbolisait pour nous, qui sommes chrétiens, de ne pas nous mettre dans un foyer avec un inconverti, parce que ça nous éloigne de Dieu. Les Galiléens, ils étaient reconnus justement pour leur métissage. Certains travaillaient pour les Romains. Donc, si vous réfléchissez à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait faire un petit parallèle, on pourrait dire que c'était les collabos de l'époque. Pour dire que ces Juifs qui travaillaient pour les Romains étaient mal vus. Il y avait des pratiques occultes dans tous les sens, parce que toutes ces nations ont amené toute l'idolâtrie qui allait avec. C'était des gens qui parlaient grossièrement. Et Jésus, on l'appelait le Galiléen. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas simplement pour dire qu'il venait de Galilée. C'était une insulte. Parce que à ça se rattachait toute l'impureté qui venait de cette région. Et tous ceux qui étaient de Galilée, de tous les autres Juifs, étaient mal considérés. Et Jésus, on l'appelait le Galiléen, parce qu'on voulait l'offenser, on voulait se moquer de lui. Alors que Jésus s'annonçait comme étant le Messie, on lui disait « mais non, toi t'es le Galiléen ». On a un texte d'ailleurs dans Ésaïe au chapitre 9, je vous donne la référence, qui parle de là où est tiré ce qu'on a lu de Matthieu, qui parle de cette grande lumière qui vient briller dans cette région, dans les ténèbres. Ésaïe nous décrit justement la Galilée, ce qu'elle est à ce moment-là, et Jésus vient y demeurer en Galilée. Alors, dans la Galilée, il y a aussi Capernaum. Moi, ça me fait toujours penser à cette expression, quel Capernaum. Vous savez ce que c'est le Capernaum ? C'est le bazar, c'est le désordre. Capernaum, c'est la même origine. Capernaum, c'était une ville où il y avait beaucoup de commerce, où il y avait beaucoup de passages, où il y avait toutes ces choses-là, sans compter justement tous ces cultes aux diverses idoles qu'il pouvait y avoir. c'était le bazar à Capernaum. Et Jésus est allé dans ce lieu. Mais c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Peut-être que dans notre cœur, entre guillemets, passez-moi l'expression, c'est le bazar. Est-ce que le Seigneur n'a pas envie? Le Seigneur, il veut venir dans notre cœur pour remettre de l'ordre. J'ai relevé une description de Capernaum, parce que ça décrit bien certaines choses. Je suis allé voir ce qu'a écrit Flavius Joseph au sujet de Capernaum. C'est un historien de l'époque. Voici ce qu'il écrit. « La terre qui environne le lac de Génézareth et qui porte le même nom est également admirable par sa beauté et par sa fécondité. Il n'y a point de plante que la nature ne la rende capable de porter, ni rien que l'art et le travail de ceux qui l'habitent ne contribuent à faire qu'un tel avantage ne leur soit pas utile. L'air y est si tempéré qu'il est propre à toutes sortes de fruits. On y voit en grande quantité des noyers qui se plaisent dans les climats les plus froids et ceux qui ont besoin de plus de chaleur, comme les palmiers, et d'un air doux et modéré, comme les figuiers et les oliviers, n'y rencontrent pas moins ce qu'ils désirent. » Il y avait tout. Tous les arbres qui sont censés pousser au froid, au chaud, etc., tous étaient là. En sorte qu'il semble que la nature, par un effort de son amour pour ce beau pays, prend plaisir d'allier des choses contraires, et que par une agréable émulation, toutes les saisons favorisent à l'envi cette heureuse terre, car elle ne produit pas seulement tant d'excellents fruits, mais il s'y conserve si longtemps que l'on y mange durant 10 mois des raisins et des figues, et d'autres fruits durant toute l'année. C'est impressionnant quand on lit ces choses. Outre cette température de l'air, on y voit couler les eaux d'une source très abondante qui porte le nom de Capernaum, que quelques-uns croient être une petite branche du Nil parce qu'on y trouve des poissons semblables au corassin d'Alexandrie. La longueur de ce pays, le long du lac de Génézareth qui porte le même nom, est de 30 stades et de sa largeur 20. Il nous dit tout simplement qu'il y a des tas et des tas d'arbres. C'est une terre très très fertile, un climat qui est très très adapté pour qu'on puisse avoir tout ce qu'on veut. À l'époque, c'était vraiment quelque chose, un pays où s'il y avait un pays où il fallait être, c'était là. Parce qu'on avait tout. Moi, ça me fait penser à la société d'aujourd'hui, en fait. Parce qu'on a tout ce qu'on veut aujourd'hui. Tout ce qu'on a besoin d'avoir, que ce soit à manger, pour s'habiller, même nos désirs pour nos désirs de loisirs, etc. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on peut faire absolument tout ce que nous voulons. Soyons honnêtes. Il y a tellement de peuples qui vivent à l'autre bout de la terre, qui ont à peine 4 murs pour s'y mettre et qui n'ont rien. Et nous, on a toutes ces choses. On est comme dans cette région de Capernaum. En France, nous sommes comme à Capernaum. Nous avons les mêmes richesses qu'il y avait dans cette ville. On est dans l'abondance. Comme Capernaum était une ville dans l'abondance. Mais à côté de ça, Capernaum était aussi une ville où les ténèbres régnaient. Ne croyez-vous pas que dans notre région, les ténèbres ne sont pas présentes ? En France, dans le matérialisme dans lequel on vit, les choses des ténèbres n'ont jamais été aussi présentes. Les gens vont voir les guérisseurs. On va facilement voir n'importe quoi au cinéma, à la télé. Des choses où la magie est sur un piédestal. Je ne dis pas que regarder la télé, c'est pas bien. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il y a une inspiration sur tout ce qu'on peut regarder qui ne vient certainement pas de Dieu. Et il y a tout cet environnement. Le jour, je regardais justement, quand je préparais ce message, un article qui disait « Les Français déprime, mais il consomme. Tout va bien. » C'est quand même triste. La France était un des pays, en Europe, donc parmi tous le sondage qui avait eu lieu, la France était au plus mauvais niveau. On était chez ceux qui déprimaient le plus. On sait tous que les pharmacies en France sont très développées. Les gens en France sont accros aux anxiolytiques, aux médicaments qui soulagent n'importe quoi, aux somnifères. Parce qu'on est dans l'abondance, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et au même titre que Jésus est allé à Capernaum et qu'il a fait beaucoup de miracles, moi je crois que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il peut faire encore la même chose. Alors que nous sommes dans cette société où il y a toute cette abondance, où il y a aussi, on peut le dire, tout ce bazar, quand on regarde ce qui se passe au niveau des lois, on ne sait même plus ce qui est bien de faire. Faut se marier, faut pas se marier. C'est un exemple. Mais des choses qui semblent naturelles et bonnes au départ, on en arrive à transformer notre société au point de ne plus savoir la gauche de notre droite. On ne sait plus vers où il faut aller. Et on voit quelque chose qui fait que malgré tout le matérialisme, malgré toute l'abondance qu'il peut y avoir, comme à Capernaum, il y a un grand vide qui est là toujours. Et le Seigneur Jésus, il est passé dans cette ville et il a fait des miracles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher le boiteux. Il est intervenu pour ceux qui étaient malades. Il a changé la vie de tous ceux qui voulaient venir parce que Jésus nous invite. C'est toujours la même chose. Jésus a invité tous ses contemporains à s'approcher de lui. Nous l'avons cette phrase. Au verset 17, nous l'avons lu, on peut le relire. « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » L'invitation, elle est là. C'est la clé qui nous permet de sortir de ce marasme. C'est la clé qui nous permet de sortir de cette déprime, de sortir de cet état où on ne peut plus s'en sortir. Repentez-vous. C'est ça qu'a dit Jésus. Et c'est encore une fois cette invitation que Dieu nous donne, parce qu'il nous sait loin de lui et il nous veut près de lui. Alors il nous dit ce qu'il faut faire pour qu'à nouveau on puisse être près de lui. On voit ensuite dans la parabole des noces, justement, cette même pensée qui dit « Allez dans tous les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Dans l'évangile de Luc, dans cette même parabole, il y a quelques détails supplémentaires et il dit « Va, parcours les places publiques et les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. Dieu nous invite tous, qui que nous soyons, quel que soit l'état dans lequel on se trouve. Est-ce que tu es pauvre ? Est-ce que tu es conscient que malgré tes richesses extérieures, tu n'as rien ? Eh bien, le Seigneur Jésus t'invite. Tu es invité à ce mariage. Est-ce que tu es estropié ? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses en toi qui te rendent esclave peut-être ? Et qui t'empêchent de marcher normalement, qui t'empêchent d'aller plus loin avec Dieu ? Peut-être que ça va être le tabac, peut-être que ça va être d'autres choses, des choses que vous regardez sur Internet, je ne sais pas. Mais ce sont des choses qui t'empêchent de marcher selon ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que tu es aveugle parce que tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi ? Tu ne sais pas où aller ? Tu es aussi invité. Est-ce que ta vie, c'est un désastre ? Est-ce que ta vie, c'est ce même bazar qu'il y a à Capernaum ? Est-ce que ta vie, c'est le Capernaum ? Vous savez quel est le sens de Capernaum à l'origine ? C'est village de la consolation. C'est ça que ça veut dire. Et bien Jésus, il veut rétablir ce qui a été déformé. Nous, ce qu'on retient de Capernaum, c'est le désastre, c'est le désordre. Alors qu'à l'origine, ça voulait dire village de la consolation. Jésus veut remettre de l'ordre dans nos vies. Jésus veut qu'on puisse y trouver la consolation, là où peut-être on est dans le désespoir. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions trouver la délivrance, là où on est dans les chaînes. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions trouver la guérison, là où nous sommes malades. Et tout à l'heure, quand peut-être nous chanterons encore un cantique, si vous avez un problème de santé, si vous avez besoin d'une délivrance parce que vous êtes sous les chaînes, approchez-vous. Parce que encore ce soir, le Seigneur Jésus veut agir. Moi, je le crois. Il veut rétablir ce qui a été déformé, au même titre que le sens de cette ville a été déformé. Par contre, il y a ce chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est mort sur une croix. Il est venu pour accomplir ce que nous, on ne pouvait pas faire. Jésus, il est mort sans péché. Et c'est parce qu'il a souffert, par les souffrances qu'il a souffertes, par son sang qui a coulé sur la croix, que nous avons accès à l'entrée de ce mariage. C'est parce que Jésus est mort pour nous que nous pouvons, comme il est écrit dans l'Apocalypse, laver nos robes dans le sang de l'agneau. Et c'est là que nous aurons la tenue adéquate pour aller à ce repas des noces. Nous sommes tous invités, mais pas n'importe comment. Nous sommes tous invités, mais pas n'importe comment. On ne pourra pas y aller n'importe comment. Il y a un chemin, il y a une voie que Dieu nous a indiquée. Et cette voie, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Nous trouvons aussi, j'aimerais qu'on prenne le temps de le lire, dans l'évangile de Matthieu, et je vais terminer sur cette idée, parce que le Seigneur, il nous invite, mais aussi il nous avertit. C'est une parole très triste que Jésus a prononcée au verset 23 du chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Imaginons deux secondes. Jésus était à Capernaum, c'est là qu'il résidait. Du moins, il résidait peut-être chez l'apôtre Pierre, on le pense, mais peut-être pas que. Tous les matins, quand Jésus se levait, certainement devait prendre un temps devant le Père pour qu'il puisse accomplir son ministère chaque jour. Je ne veux pas imaginer, on ne peut pas imaginer, sachant qu'on a aussi cette parole de Jean qui nous dit, si on voulait énumérer tout ce que Jésus avait fait, on ne pourrait pas. Ce serait pas possible. Il a fait trop de choses. Combien de miracles Jésus a-t-il fait par jour ? La Bible ne nous le dit pas. Mais là où Jésus est, il se passe des choses. Ça peut pas être autrement. Quand Jésus résidait à Capernaum, c'est une ville qui a vu la grâce de Dieu jour après jour. C'est une ville qui a vu Dieu agir dans ses murs jour après jour. C'est une ville qui a vu des guérisons jour après jour. C'est une ville qui a vu des vies changer jour après jour. Tous les jours, le temps que Jésus y était, Jésus n'était pas là pour passer du bon temps. Jésus était soucieux de faire ce que le Père voulait qu'il fasse. Donc forcément, il était à l'œuvre. Et pourtant, on voit que malgré tout, la majorité des personnes de la ville, parce que quand on donne le nom d'une ville pour s'adresser à elle, c'est que la majorité des personnes sont dans ce cas. Capernaum se retrouve, ce texte nous montre que l'incrédulité était toujours là. Le Seigneur nous avertit, il nous veut près de lui, il veut intervenir, et si Dieu intervient dans ta vie ce soir, ne reste pas incrédule. Et repens-toi, parce que c'est pas parce que Dieu t'aura guéri que tu seras sauvé. C'est pas parce que Dieu t'aura délivré d'une chaîne que tu seras sauvé. Ce qui te sauve, c'est de te repentir, d'aller au pied de la croix, de demander pardon, Seigneur Jésus, pour tes péchés. C'est ça qui te sauve. C'est ça qui te permet d'accéder au ciel. Ce n'est pas d'avoir vécu une bénédiction particulière qui vient de Dieu. Des miracles à Capernaum, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. N'est-ce pas triste de lire ces choses sur cette ville ? Quand on sait que Sodome et Gomorre, quand on connaît le sort qu'ont eu ces villes et qu'on voit à quel point Dieu dit ces choses, je pense que c'est écrit, donc c'est vrai. Si les miracles que Jésus avait faits avaient eu lieu à Sodome, Sodome serait encore une ville que nous connaîtrions aujourd'hui. C'est écrit. Dieu nous invite. Mais nous avons un choix à faire. On ne peut pas aller au mariage comme ça. Il nous faut laver notre robe. Qu'est-ce que ce soir tu veux choisir ? J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Dieu, il nous invite. Il nous veut près de lui. Seulement, on ne peut pas accéder au ciel par la voie que nous décidons. La voie qu'il faut emprunter, c'est celle que Dieu nous donne. La voie, c'est Jésus. La voie, c'est la repentance. On ne peut pas accéder, on ne peut pas être éligible à venir à ce mariage si on ne passe pas par ce chemin, si on n'a pas accepté que Jésus soit mort à notre place, c'est pas compliqué, il suffit de croire que Jésus l'a vraiment fait pour nous et de demander pardon à Dieu. Seulement, ce chemin, il nous indique quelque part aussi que devant Dieu, il nous faut savoir nous humilier devant lui et reconnaître l'état dans lequel nous sommes. Ce soir, est-ce que tu vas être comme Capernaum qui a vu tant de miracles, qui a vu tant de fois, ou est-ce que tu vas être comme Israël qui tant de fois a entendu par la voix des prophètes Dieu appeler, Dieu dire « reviens, reviens ». Et malgré tout, ne se sont pas laissés convaincre et sont allés jusqu'à tuer les prophètes. Le Seigneur Jésus nous invite, mais il nous montre le chemin qu'il faut emprunter pour qu'on puisse aller vers lui. Est-ce que ce soir, tu veux venir? Est-ce que ce soir, devant Dieu, dans ton cœur, tu dis « oui, Seigneur Jésus, c'est vrai, je me suis écarté loin de toi ». Seigneur, tu vois ce qui ne va pas dans ma vie. Je te demande pardon. Oui, c'est vrai, Seigneur, que j'aurais besoin que tu viennes dans ma vie, mettre de l'ordre, parce qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Ce soir, que tu puisses répondre à l'appel du Seigneur.